Harry reste un peu parce que je lui ai demandé de m'aider pour la lecture. Ce matin, j'aimerais lire un texte un peu long, mais c'est un texte qui est difficile à couper. C'est pour ça qu'on va garder, le garder dans toute sa longueur. Il s'agit du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Alors, vous pouvez le suivre, vous pouvez l'écouter. C'est vraiment un texte qui a un souffle et qui se prête bien à l'écoute également. Donc voilà, l'Épître aux Hébreux, c'est une épître du Nouveau Testament qu'on a longtemps attribuée à Paul. Et puis en fait, en regardant les théologiens commentateurs sont sûrs qu'il ne s'agit pas de Paul, mais c'est une épître qui fait partie de la Bible, qui fait partie du canon biblique, qui a beaucoup à nous apprendre. Et au chapitre 11, donc, il y a un texte célèbre sur la foi. Et donc, voilà la lecture de ce chapitre. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste.
C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Par elle, quoique mort, il parle encore.
C'est par la foi qu'Enoch fut transporté, de sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait transporté. En effet, avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et animé par sa piété, bâtit une arche pour le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond à la foi.
C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous les tentes, avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur.
C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle tint pour digne de confiance celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont nés des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer qu'on ne peut compter.
C'est par la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, son fils unique, qu'il offrait, lui qui avait recueilli les promesses, et à qui il avait été dit, « C'est par Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance. » Il estimait que Dieu avait le pouvoir de réveiller un mort. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une parabole.
C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir.
C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton.
C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de l'exode des Israélites et donna des ordres au sujet de ses ossements.
C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient vu que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'édit du roi.
C'est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme quelqu'un qui voit celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang pour que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites.
C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui tentèrent d'en faire autant furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours.
C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne fut pas perdue avec les réfractaires, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions.
Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait, en effet, pour passer en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, eux qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent la réalisation des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent rendus puissants par-delà leur faiblesse, se montrèrent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection. Mais d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de rédemption afin d'accéder à une résurrection supérieure. D'autres subirent des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tous ceux-là, qui avaient reçu par la foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'il ne soit pas porté à leur accomplissement sans nous. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Alors, comment faire ? La foi. Ce texte, vous l'aurez compris, parle de la foi. Est-ce que vous savez ce qu'est la foi ? Est-ce que vous savez définir ce qu'est la foi ? Je trouve que c'est une question toujours compliquée quand on nous demande, mais au fait, tu peux m'expliquer ce que c'est que la foi ? Au premier verset de ce qu'on a lu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux en donne une définition. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous trouvez ça clair. la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. D'autres traducteurs proposent d'autres traductions, et c'est bien de les lire, comme ça, ça s'adresse un peu une mosaïque, d'autres impressions qui permettent de cerner un peu plus. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'était la version Louis II. La Bible du Semeur dit que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et la Bible en français courant traduit « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. » Voilà, voilà la définition de la foi que donne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. On voit bien là que la foi, c'est un synonyme de croire en Dieu. La Bible en français courant dit « mettre sa foi en Dieu ». Il y avait une autre traduction qui traduisait « foi » par « croire en Dieu ». Mais surtout, la foi, c'est croire quelque chose qu'on ne voit pas. Si on voit, ce n'est pas la foi. Dans la foi, il y a une part de risque. Je ne peux pas dire « j'ai la foi que vous êtes présent ici, ce matin, en face de moi ». Je le vois. Je n'ai pas besoin de faire un effort. À la limite, je peux avoir la foi que vous m'écoutez, parce que vous pouvez vous couper de ce que je dis, mais ce que je vois, ce dont je suis sûr, ne nécessite pas la foi. Et la foi, c'est quelque chose de fort. Les différentes traductions parlent de posséder ce qu'on espère. Être sûr, certain des réalités qu'on ne voit pas. C'est être convaincu. Le français a cette richesse d'avoir deux mots, espoir et espérance. L'espoir, c'est quand on espère que quelque chose va se réaliser et qu'on n'en est pas sûr, mais on l'espère. J'espère que l'an prochain, à la même époque, ce ne sera pas Castres le champion de France, mais l'ASM Clermont-Auvergne. Voilà. Par contre, l'espérance, c'est quelque chose dont j'ai l'assurance, dont je suis sûr. Et l'auteur du texte donne un premier exemple avec la création du monde. Personne n'était là. Personne n'a pu voir ce qui s'est passé. Mais à travers la révélation, à travers la Bible, nous comprenons que Dieu a créé le monde par sa parole. Si nous en sommes convaincus, c'est par la foi uniquement, parce que ce que nous avons sous les yeux ne nous le montre pas. C'est la foi qui nous permet de croire et de déclarer que Dieu a fait le monde. Voilà ce que c'est la foi, une conviction profonde. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, le texte était un peu plus long que ces deux, trois premiers versets. Je crois que ce que veut dire l'auteur, ce qu'il montre là, c'est qu'avant tout, la foi, ça se vit. Et c'est la vie de différents hommes et femmes qu'il nous propose là, pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est que la foi, non pas par une définition, mais par l'exemple. La foi, ça se vit. Parce que la foi n'en déplaise à certains qui veulent la reculer le plus loin possible. La foi, ce n'est pas une conviction intérieure qui appartient à la sphère du privé. La foi, c'est quelque chose qui a une influence sur toute la vie. Ainsi donc, on a une liste de modèles, une liste de personnes qui sont là et dont la foi s'est exprimée différemment. Ce serait intéressant. Je ne sais pas si vous connaissiez tous ceux qui ont été cités. Ce serait intéressant de relire les récits bibliques qui parlent de ces personnes en se posant la question. Où était sa foi? comment est-ce qu'il l'a mis en action et comment est-ce que je peux m'en inspirer. Je ne vous cache pas que je réfléchis à quelque chose pour nos groupes de maison sur ce sujet. Ceux qui sont cités là, ils ont fait toutes sortes de choses. Il y en a qui ont fait des exploits, des choses qui ont marqué leur époque. Noé, par exemple, a bâti l'arche. Moïse a tenu tête au Pharaon, il a conduit le peuple à travers le désert jusqu'au pays promis. Il a traversé la mer à pied sec avec tout le peuple derrière lui. Les Israélites ont fait tomber les murailles de Jéricho juste en faisant le tour. Abraham, qui est appelé le père des croyants, il a tout quitté pour suivre Dieu, juste sur son appel, juste sur sa parole. Et plus tard, il était prêt à sacrifier son fils parce qu'il avait confiance en Dieu. Quand je lis ces exemples-là, c'est difficile de se sentir à la hauteur. Mais il y a des gens qui ont fait des choses plus simples dans cette liste. Je vois Sarah qui a accepté de jouer le jeu pour devenir mère. Isaac ou Jacob qui ont suivi le chemin de patriarche initié par Abraham à la tête de grands biens qui les ont gérés. Je vois Rahab aussi, la prostituée, à Jéricho, qui est citée là en exemple parce qu'elle a ouvert sa maison, pratiqué l'hospitalité, accueilli ceux qui étaient du peuple de Dieu. De grandes choses, des exploits qui ont changé l'histoire du salut, ou des petites choses qu'ils ont fait quand ils ont eu l'occasion de le faire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tous ces exemples ont fait ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça ? Quand on lit le texte, on le voit. Pour chaque exemple, l'auteur le met en avant. Il s'agissait d'une promesse qui vient de Dieu et qu'ils ont reçue. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils se sont dit « Je vais faire des grandes choses et je vais m'appuyer sur Dieu pour le faire. » Non. Ils étaient passifs, et ils ont reçu de la part de Dieu un appel à faire quelque chose et une promesse. Abel ou Enoch avaient reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Abraham a reçu l'appel de partir avec la promesse d'un pays. Et cette promesse qui a été renouvelée après auprès de ses descendants Isaac et Jacob. Moïse a reçu l'appel à faire sortir le peuple d'Égypte et l'amener dans le pays promis. Et il a eu la promesse que ça s'accomplirait. Certains, parmi ces exemples, y voient la promesse à long terme. Abraham, Isaac et Jacob visaient un pays qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas commencé à rentrer dedans. Ils sont juste passés en étranger. Ils visaient loin. Moïse y visait encore plus loin. Le texte nous a dit qu'il a vu les souffrances de Christ dans ce qu'il faisait. Il y avait vraiment la vision lointaine du plan de Dieu. D'autres voyaient moins loin. Rahab, elle cherchait à être épargnée. Sarah, à avoir un enfant. Ou les parents de Moïse, juste sauver leur bébé, parce qu'ils le trouvaient beau. Mais tous, qu'il voit le plan de Dieu dans son ensemble ou juste la prochaine étape. Ils avaient reçu cet appel de la part du Seigneur et la promesse que ça se réaliserait. Ça a eu une implication pour leur vie et ils l'ont appliqué, ils ont changé leur vie pour ça. Et qu'est-ce que ça a eu comme implication sur leur vie ? Ils ont eu à supporter des souffrances. Abel a été tué. Moïse a dû renoncer au confort de la cour de Pharaon. Abraham a accepté de vivre toute sa vie sous des tentes, un peu comme un SDF. Ils ont fait des sacrifices, des renoncements. Ils étaient errants. Le passage nous dit étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas de ce monde, ils n'étaient pas là pour s'installer, pour être confortables, mais qu'ils étaient de passage visant autre chose, un autre monde. Et ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin du passage, ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, non pas parce que Dieu n'a pas tenu sa promesse, mais parce que cette promesse est à venir, et ils le savaient. Et ils savaient que même la mort, même leur mort, ne pourrait empêcher la promesse de se réaliser, qu'elle s'accomplirait de toute façon. Alors il leur a fallu de la persévérance. Pour certains, comme Moïse, c'était refuser le confort. D'autres, comme Noé, c'était accepter d'être isolé au milieu de leurs voisins. Certains, comme les parents de Moïse, ont résisté malgré les lois, malgré les commandements du Pharaon. En un mot, il leur a fallu à tous tenir bon, tenir ferme. Comment faire pour tenir bon? En étudiant le texte, il y a quelque chose qui m'a frappé. On nous dit que Noé a pu faire cela parce qu'il était animé par la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? La piété, c'est de passer du temps avec Dieu, de lire sa parole, de prier, d'être à son contact, afin d'être proche de lui, d'être en relation avec lui. Noé était animé par la piété, mais quand on regarde bien, je retrouve cette piété chez d'autres également. Abraham, Isaac, Jacob, ils ont vu et salué de loin les promesses. Elles étaient sous leurs yeux et ils ont fait en sorte qu'ils continuent de les voir. Moïse regardait vers la récompense, au lieu de se laisser perturber par les difficultés auxquelles il a eu à faire face. Il regardait vers la récompense, les yeux tournés vers Dieu, à travers la piété. J'ai entendu cette citation prêtée à Martin Luther. Le problème avec Martin Luther, c'est qu'il a tellement parlé qu'on lui prête plein de citations sans être sûr exactement que ce soit de lui. Mais j'ai entendu ça. Martin Luther qui aurait dit « Je prie une heure tous les matins, et si j'ai beaucoup de choses à faire, je prie deux heures. » La piété. Passer du temps avec Dieu, ce qui permet de tenir, de ne pas dévier, comme le carburant qui nous permet d'avancer et dont il faut régulièrement refaire le point, le plein. Un beau tableau plein de héros de la foi. Et nous, qu'en faire? C'est intéressant de regarder le passé, mais qu'est-ce qui nous projette en avant? Qu'est-ce qui est pour nous? Pour nous, il y a la suite. Au chapitre 12, le verset 1, c'est la suite de toute cette énumération, et l'auteur dit... Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, ce qu'on vient de citer au chapitre 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Voilà en quoi ce texte est utile, de ce qui nous donne des modèles pour ce que nous-mêmes avons. La même chose. Nous devons suivre leur exemple et avancer. Je ne sais pas si vous recevez ça comme quelque chose d'un peu écrasant, hein. On l'a vu, c'est des gens qui ont vraiment fait des actes de foi dont on ne sait pas si on serait capable de les faire. J'ai moi aussi été interpellé par ce qui s'est passé cette semaine avec Mamadou Gassama. Et La question s'est estompée au cours de la semaine, mais au début de la question, il y a eu cette polémique. Est-ce qu'il y a besoin d'être un héros pour être naturalisé? Et ceux qui sont des migrants ordinaires, est-ce qu'ils ont une chance? Et ça fait écho un peu avec mon étude du texte. Est-ce qu'il y a besoin d'être un héros pour être chrétien? De faire des grandes choses, d'être un Moïse, d'être un Abraham? Ou est-ce qu'on peut être chrétien et faire preuve de foi? Et si on lit ce texte, il faut faire attention. Il n'y a pas que des gens qui ont fait des trucs extraordinaires, je l'ai dit. Il y a Sarah, il y a Isaac ou Jacob, il y a Rahab. Et puis, à la fin, il y a aussi plein d'anonymes qui sont évoqués par l'auteur. La foi, tout le monde est concerné. Que Dieu nous destine à faire de grandes choses ou qui nous destine à une fidélité simple. On a besoin de la foi pour le vivre. Il y a une autre question avec ces modèles, c'est est-ce que la foi, c'est uniquement pour les gens irréprochables, les gens qui ne font pas d'erreur? Beaucoup des personnes citées dans cette liste sont faillibles. Ils ont fait des bêtises, parfois des grosses bêtises. On nous précise bien que Rahab, c'était une prostituée. Dans ceux qui sont cités à la fin, il y a Jephté et Samson qui sont cités. Ça, c'est extraordinaire. Jephté, c'est le gars qui a parlé trop vite et qui s'est retrouvé à sacrifier sa fille quand même. Et Samson, c'est celui qui était juste intéressé par les filles et qui a passé plus de temps en prison parce qu'il avait fait un mauvais choix au niveau de celle avec qui il partageait sa vie. Et voilà ces gens qui sont cités en exemple comme pouvant nous inspirer. Et même ceux qui sont des grandes figures, ils ont leur passage d'ombre. Abraham, qui a discrètement refilé sa femme au pharaon pour éviter d'avoir des problèmes. David, qui a cet adultère célèbre, mais aussi, quand on lit son histoire, il y a un père qui a vraiment des difficultés pour tenir sa famille. Ou Moïse, qu'on étudie en groupe de maison, et on voit toutes les incertitudes par lesquelles il passe, toutes ses faiblesses. Mais ces gens sont quand même des exemples pour nous, malgré leurs faiblesses. Parce que, comme nous le dit le texte, ils ont vécu leur foi malgré la faiblesse. Dieu les a rendus puissants malgré leurs faiblesses. Ce n'est pas une invitation à se complaire dans nos faiblesses. Mais par la grâce, nous avons la possibilité d'être fidèles, de plaire à Dieu, malgré nos faiblesses. Alors, comment faire? J'espère que la question vous intéresse, que vous avez envie de vivre ainsi par la foi. Comment faire? J'aimerais prendre trois exemples de situations dans lesquelles nous avons besoin de la foi. Comme tous les exemples, ils ont des limites. Je vous invite à, avec votre imagination, voir comment vous aussi vous êtes concerné. Premier exemple, c'est ce que nous faisons en Église. Quand on vit un projet d'Église, quand on cherche à faire des disciples, qu'on arrête de se laisser porter par ce qui se passe, mais qu'on veut être intentionnel, on a besoin de la foi. Et avec le projet immobilier que nous avons besoin de la foi, parce que c'est une montagne qui nous attend, avec l'aménagement du bâtiment qu'on achète. Et cette envie d'avoir un lieu de culte qui peut rassembler 300 personnes. Quand on voit le budget que ça représente, mais surtout quand on voit le travail que ça va représenter, à vue humaine, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi se laisser submerger par l'inquiétude, en se posant des questions. Quel impact ça va avoir sur la vie d'Église, sur la fatigue de chacun? Y arriverons-nous? Comment réussir? Voilà une question qui préoccupe. Deuxième exemple de lieu où la foi est nécessaire. Tenir bon malgré la critique. On vit dans un monde qui n'est pas croyant, mais plusieurs sont même dans des environnements hostiles, avec au milieu de leurs collègues ou une famille qui n'est pas chrétienne et qui est hostile à l'Évangile. On peut essuyer des blagues blessantes, des moqueries, « toi qui es chrétien, railleur », c'est jamais agréable. Mais parfois, on a aussi réellement des bâtons dans les roues. Par exemple, on peut avoir un conjoint qui n'est pas chrétien et qui, toutes les semaines, le dimanche matin, va demander « tu vas encore à l'église ?» à essayer de faire peser un sentiment de culpabilité et le vivre comme ça, semaine après semaine. Comment vivre de difficultés ? Troisième exemple, troisième lieu où on a besoin de la foi. On a besoin de la foi pour ne pas céder à l'environnement. On vit dans un monde où il y a des choses qui sont admises, où la loi de notre Seigneur n'est pas reconnue comme une norme. Des choses qui sont admises dans le milieu professionnel où on est, ou entre étudiants, que sais-je, des libertés qu'on prend avec des règles qui sont admises par tout le monde. Ce n'est pas facile de tenir bon dans cet environnement quand on est convaincu que Dieu attend de nous une vie droite, alors que les autres ne se posent pas les mêmes contraintes. Je prends un exemple, là encore, vous pouvez en imaginer d'autres. Il y a d'autres situations, mais je pense à ceux qui veulent vivre leur relation amoureuse selon le dessein de Dieu, qui vont attendre de trouver quelqu'un qui partage leur foi, attendre avant de vivre ensemble, de vivre leur sexualité, qui veulent s'engager dans le mariage pour honorer Dieu, parce qu'ils comprennent que c'est ça que Dieu attend. Alors que autour d'eux, il n'y a pas grand monde qui suit ce chemin ou qui résiste, et qu'au quotidien, la tentation est forte. Comment tenir ferme pour ne pas céder à l'environnement ? Comment réussir ? Comment vivre les difficultés ? Comment tenir ferme ? Il y a besoin de la foi. La foi, c'est pas un moyen d'avoir des trucs qu'on désire vraiment. C'est pas un petit plus qui vient avec la religion, qui nous donne plus de chances que les autres d'avoir ce qu'on souhaite. Pas quelque chose qui fait penser le destin en notre faveur. Ce n'est pas un espoir, une espérance. Une espérance qui se fonde sur une parole de Dieu, une espérance qu'il nous faut saisir pour posséder ce qui est promis. Qu'est-ce qui nous est promis ? Les promesses, il y en a beaucoup dans la Bible. Mais moi, je pense à cette promesse qui nous anime en tant qu'Église et qui est profonde aussi pour nos vies personnelles. Celle qui se trouve à la fin de Matthieu, au chapitre 28, où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà une parole qui est pour nous. Un appel à être des disciples, à vivre l'enseignement de Jésus, non pas seulement le trouver sympathique, mais le vivre dans nos vies. Ça, c'est le commandement. Et avec vient la promesse, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous promet pas que ce sera facile. Il ne nous promet pas que les persécutions cesseront. Il ne nous promet pas que nous réussissons ce que nous entreprendrons. Il nous promet qu'il sera avec nous. Et donc nous avons l'invitation de passer à l'action, d'être ses disciples, de suivre l'enseignement de Jésus, de vivre ce qu'il nous enseigne, même si, comme dit un chant qu'on aime bien chanter, même si je suis fragile, même si c'est difficile. Commencez par se faire baptiser, comme acte d'obéissance visible, premier, et continuer ensuite avec les commandements qu'il nous a enseignés. Et puis, faire nous aussi des disciples. Ne pas avoir de repos, mais chercher à faire avancer la parole de Dieu en Église ou personnellement. Invitation à passer à l'action, mais il nous faut aussi se préparer pour la durée. Parce que le plus difficile, ce n'est pas de prendre la décision, ce n'est pas de se mettre en route, c'est de tenir jusqu'au bout. La difficulté, ce n'est pas de mettre en place un projet d'église quand l'enthousiasme est là, c'est de mener le projet quand la nouveauté est passée et qu'on s'essouffle. La difficulté, ce n'est pas de rester stoïque à telle ou telle moquerie, c'est de supporter l'accumulation sans renoncer. La difficulté, ce n'est pas de refuser le péché une fois, c'est de le faire de façon continue. Et ça, mes amis, c'est difficile. D'autant plus que parfois on n'en voit pas le résultat. On ne voit pas l'accomplissement du projet, on ne voit pas les fruits de notre résistance, on ne voit pas l'intérêt de suivre l'exigence du Christ. Comment faire pour tenir ? Comment faire pour tenir ? Eh bien, il faut regarder au loin. Quand j'ai appris à conduire, on m'a appris à regarder loin, au bout de la route. C'est utile parce que quand on est dans un virage, si on regarde juste devant le capot de la voiture, on a tendance à trop partir et la voiture bouge. Alors que si on regarde au loin, on peut avoir une trajectoire juste. C'est pareil pour nous, pour nos vies. Ne pas regarder juste à la première chose, à la prochaine chose qui arrive, mais regardez au loin à ce que Dieu, à ce que Jésus promet. Regardez vers le jour où Jésus reviendra. Ce jour où toutes nos actions seront pesées, où tout ce que nous avons fait jusqu'à nos pensées et nos motivations cachées, tout cela sera révélé, évalué et jugé. Ce jour où nous aurons l'occasion d'entendre cette parole. C'est bien, bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. C'est sur cet horizon qu'il faut garder les yeux fixés. Et pour le faire, appuyons-nous sur la spiritualité. Passons du temps à rechercher la présence de Dieu, à nous mettre à son écoute, seul, dans le silence, le matin avant que la journée commence, ou le soir quand les sollicitations cessent, ou en journée, en nous extrayant du quotidien, en prenant un temps à part. Recherchons-le aussi avec les autres, avec nos frères et sœurs. Priez et méditez la Bible ensemble. Partagez nos difficultés à mettre en pratique le commandement de Dieu, à garder les yeux fixés pour lui et se laisser encourager par les victoires de ceux avec qui on partage. Et c'est ainsi que nous pourrons garder les yeux fixés sur notre espérance. Voilà ce que j'aimerais laisser au moment de conclure. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre, la foi. Pas une conviction intime appartenant à la sphère privée, mais quelque chose qui oriente le cours de nos vies, qui le change avec des conséquences concrètes. Pourquoi faire ça ? Pourquoi choisir une vie peut-être difficile, en tout cas une vie sans repos ? Pourquoi vivre par la foi ? Parce que nous n'avons pas le choix. Parce que quand Dieu nous parle, il nous demande quelque chose. Que pouvons-nous lui répondre d'autre que « Oui, Seigneur ». Alors, tenons bon. Le texte nous dressait le portrait d'une foule de témoins qui ont tenu bon malgré leurs faiblesses, qui sont allés jusqu'au bout. Inspirons-nous d'eux. Méditons leur exemple. Suivons-le à notre échelle avec ce que Dieu nous demande dans notre cas à nous. Nous ne sommes pas forcément invité à vaincre des royaumes, exercer la justice, obtenir la réalisation de promesses, fermer la gueule des lions, atteindre la puissance des feux, se montrer vaillant à la guerre, mettre en fuite des armées étrangères. Mais nous sommes tous appelés à être fidèles, à accepter les conséquences de notre choix de suivre Jésus. Et c'est possible si nous gardons les yeux fixés sur Jésus et sur l'espérance de son retour. Et je vous laisse avec cette promesse au cœur du texte que nous avons lu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, n'aura pas honte d'être appelé notre Dieu. Amen.